Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. J'ai le plaisir de retrouver Bernard Michon et Natacha Bonnet-Guilbault, tous deux historiens et membres du CRHIA. Bonjour.
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 Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre discussion sur le système des plantations de canne à sucre et de leur économie. Et ma première question est d'ordre un peu généraliste. On avait parlé de Saint-Domingue, perle des Antilles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que représente cette île dans le système économique mondial de plantations ?
On avait évoqué dans une précédente émission le très fort développement connu par Saint-Domingue au XVIIIe siècle. On avait pointé en particulier l'essor considérable du nombre de plantations de canne à sucre. Il faut dire à nos auditeurs que Saint-Domingue est, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le premier producteur mondial de sucre et le premier producteur mondial de café, loin devant les îles et les colonies anglaise par exemple, de la Jamaïque.
Un tout petit territoire mais qui produit la majorité du sucre au niveau mondial.
Saint-Domingue est l'espace colonial qui pousse à son paroxysme la logique de l'économie de plantation.
Alors justement, par rapport à cet aspect économique d'une plantation, Natacha Bonnet-Guilbault, vous avez étudié les données comptables. Alors comment avez-vous eu accès à ces données ?
En fait, il y a trois types de documents qui vont intéresser l'historien au premier chef pour étudier le revenu d'une plantation. C'est tout d'abord le compte de régie. Alors, ce qu'on appelle le compte de régie, c'est tout simplement le compte de gestion interne de l'habitation. C'est des comptes qui sont établis annuellement par le gérant sur place ou le maître et qui sont établis en livre colonial, donc en livre de Saint-Domingue. Et c'est les plus complets. Pour l'étude de la production sucrière, ils émanent directement du lieu de la production. Et puis, c'est surtout les seuls qui livrent des productions chiffrées exhaustives de l'ensemble des dorés qui sortent chaque année de l'habitation en répertoriant les recettes, les dépenses annuellement. Et on a aussi là, voilà, tous les achats, que ce soit l'achat du bois pour faire le feu à la sucrerie, que ce soit le chirurgien qui est payé, enfin toutes les dépenses et toutes les recettes sont notées. Donc c'est vraiment très très important. Ensuite, on a le compte de vente. Donc le compte de vente, il est également dressé en monnaie du pays, mais pas seulement. Quand par exemple le sucre est vendu au réseau anglais ou au réseau hollandais, c'est établi dans la monnaie des différents pays. Alors eux, ils permettent de retracer la globalité des ventes de sucre sur une année, mais c'est des indications nettement plus ponctuelles, de fait, évidemment, que les comptes de régie. Ils précisent le montant final de la vente, le nombre de barriques qui sont concernées, et puis, très intéressant aussi pour l'étude agraire, c'est le poids des sucres vendus. On a enfin le compte courant, qui sont établis par les négociants, nantais, bordelais ou européens, qui livrent un bilan des opérations financières au quotidien entre le colon et le négociant, qui s'apparentent parfois plus ou moins un banquier. Donc les frais répertoriés, ce sont ceux du négociant, ceux du fonctionnement interne de la plantation, eux, n'apparaissent pas. Les comptes courants, en fait, donc, sont plus généraux. Ils ne répertorient que les grands flux de capitaux, mais ils sont extrêmement importants parce qu'ils font apparaître les versements d'argent à la famille propriétaire. Et c'est là qu'on voit effectivement les flux financiers qui transitent de part et d'autre de l'Atlantique.
Alors, le système était-il rentable ?
Alors c'est évidemment la grande question. Le système est très différent et les cas de figure sont très différents d'une plantation à l'autre, entre une petite plantation qui va avoir une cinquantaine d'esclaves et une plantation, parfois on est allé à Saint-Domingue jusqu'à 1000 esclaves, les cas de figure sont effectivement très disparates. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est aussi différent si le gérant, enfin, s'il y a un gérant ou si c'est le colon lui-même, le propriétaire lui-même qui gère sa plantation. Auquel cas, il va effectivement faire des investissements qui vont être peut-être plus ajustés. Dans le cas d'un gérant, il va avoir tendance parfois à se verser peut-être de façon un peu plus large une part ou à suivre de façon un peu plus lointaine aussi la gestion parce qu'on a parfois aussi des gérants qui peuvent gérer plusieurs habitations. Donc on aura une gestion un peu moins rigoureuse entre guillemets. Alors la question de la rentabilité pose en fait aussi deux questions sous-jacentes. C'est la question du rendement de la terre et la question de la rentabilité humaine. Pour la première question, ça diffère un peu moins si ce n'est une méthode agraire un peu plus efficiente dans un cas, mais globalement on a moins de disparités. La grande disparité en fait elle intervient vraiment sur le deuxième facteur au niveau humain, et en fait c'est vraiment le capital humain, le capital des esclaves qui va vraiment être primordial, et ce sont les investissements serviles selon la politique que va mener le maître ou le gérant, selon qu'il procède par des petits achats fractionnés d'esclaves, de façon raisonnée, 4, 5, 6 esclaves à chaque fois, ou selon qu'il achète un grand groupe d'esclaves, un grand lot d'esclaves en même temps, et du coup ça grève de façon vraiment considérable le budget. C'est vraiment très très lourd hein, comme investissement pour une plantation. Parmi les estimations financières les plus hautes hein, pour des esclaves commandeurs, des esclaves à talent, sucriers, charpentiers, vraiment des hommes vraiment primordiaux pour le fonctionnement de la plantation, on peut aller jusqu'à 3, 4 000 livres coloniales.
Juste pour préciser pour nos auditeurs, hein, une livre coloniale donc à un cours un peu plus haut que la livre tournois qui est la monnaie utilisée à cette époque-là, 3 à 4 000 livres coloniales équivalent à peu près à 2300 jusqu'à 2500, 2600 livres. Pour donner un ordre d'idée, un manouvrier, donc quelqu'un qui travaille de ses mains, gagne autour de 250 livres par an. Hein, donc, ce qui nous montre la valeur donc, de ces captifs, de ces esclaves. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Oh, I have fears, you have fears too. Die too. Life is beautiful. Don't you think so too, Mr. Jailer? I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him eat 1,000 be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Suppress all my strategies. You oppress every part of me. What you don't know, you're a victim too, Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer. I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him who is without sin be the first to cast the stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man. You see, if you walk in the marketplace, don't throw stones. Even if you do, you just might one of your own. Life is not about your policies all the time, so you better rearrange your philosophies. I'm good to your fellow man.
Vous écoutez Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec Bernard Michon et Natacha Bonnet-Guilbeault. Vous venez de nous expliquer que la rentabilité d'une plantation était aléatoire. J'aimerais qu'on discute maintenant des résistances au quotidien des esclaves sur les plantations. Vous avez parlé dans l'émission précédente de marronnage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces formes de résistance ?
il faut distinguer le petit marronnage du grand marronnage. Le grand marronnage est celui qui est le plus craint par les gérants et les colons. C'est le cas où l'esclave s'en va dans les mornes alentours. Donc à Saint-Domingue, c'est effectivement le cas de beaucoup de plantations qui étaient situées à flanc de montagne, et auquel cas, effectivement, l'esclave est entre guillemets, l'investissement servi est entre guillemets perdu pour la plantation. On a quelques cas de grand marronnage sur chaque plantation. Le petit marronnage, c'est des fuites de quelques jours, de quelques semaines. Et ce qui embête effectivement dans ce cas-là le colon, il voit son intérêt économique, c'est qu'en général, quand il revient de plusieurs semaines, il est amaigri, il est affaibli, et donc il n'est plus une force de travail concrète et effective pour la plantation. Il y a aussi d'autres formes de résistance sur la plantation, qui sont les chants, les danses, et qui sont pratiquées par les esclaves au sein de leur travail des champs, pendant leur journée de travail. Ce qu'il faut bien se garder à l'esprit, c'est que les sources en général qui sont à notre disposition sont les sources, forcément, du colon, du planteur. Donc c'est vrai que lorsqu'il écrit dans les correspondances, les archives qui nous sont parvenues, il ne s'attarde pas trop lorsque le gérant rend des comptes au propriétaire sur ces aspects-là. Son rôle est effectivement de montrer qu'il a en main la gestion de l'atelier servile et que voilà, tout se déroule au mieux.
Après la Révolution noire, Saint-Domingue devient Haïti en 1804. Que sont devenus les planteurs? Quelles ont été les conséquences sur les plantations?
Alors les planteurs, certains ont déjà quitté Saint-Domingue il y a effectivement presque une dizaine d'années, parce que certains fuient vers les États-Unis vers 1792-93, donc ne sont déjà plus présents. Certaines, par contre, sucreries ont continué de fonctionner et de vendre du sucre, de façon très rentable d'ailleurs pour certains, en passant justement par d'autres circuits financiers que les circuits français. Et donc, de fait, ont été très bien vendus au niveau des sucres. Donc, à la date de 1804, finalement, il n'y a plus de lien de présence directe sur les plantations. Elles ont été abandonnées à la population sur place. Et donc, les familles sont revenues en métropole. Les gérants, eux aussi, ont quitté la colonie. Et les planteurs vont être, les familles de planteurs, parfois, quand il s'agit des ayants droit, ont été indemnisées par le gouvernement français pour cette perte de plantation qu'il n'avait plus.
Merci Natacha Bonnet-Guilbeault, merci d'avoir participé à cette émission. Bernard Michon, nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous poursuivons notre voyage. Nous partons cette fois dans l'océan Indien. Merci de suivre cette émission, excellente fin de journée. C'était Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la mémoire, avec à la technique José Pasquale.